Alors, eh bien, on a commencé le livre de Daniel la semaine dernière. On va continuer ce livre. On en est maintenant au chapitre 2. Et on va commencer par lire les 18 premiers versets. Daniel, chapitre 2, versets 1 à 18. La deuxième année du règne de Nebuchadnetsar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit: « J'ai eu un songe, mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. » Les chaldéens répondirent au roi en langue araméenne: « Ô roi, vis éternellement. Dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. » Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens: « La chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et de grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi le songe et son explication. » Ils répondirent pour la seconde fois: Que le roi dise le songe à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit: Je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps, parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés en attendant que les temps soient changés. C'est pourquoi dites-moi le songe et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. Les Chaldéens répondirent au roi: Il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée. Les sages allaient être mis à mort et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjok, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arjok, commandant du roi: Pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Arjok exposa la chose à Daniel. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Hanania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fasse pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors, ce matin, au travers de ce passage, de ce chapitre, on va développer le thème de la prière. Est-ce que nous prions? Et si nous prions, pourquoi prions-nous? Puisque Dieu sait toutes choses. Quelle est l'efficacité de la prière? Qu'est-ce que la prière finalement développe dans notre cœur? On va répondre à ces questions par notre texte. Alors, eh bien, au commencement du chapitre 2, nous lisons qu'il s'agissait de la deuxième année du règne de Nebuchadnetsar. Et tout de suite, on se retrouve confronté à un problème. Si on fait attention au texte, parce que on peut observer que Nebuchadnetsar donc est monté à Jérusalem en pensant qu'il était déjà roi, hein. On se dit il est arrivé donc pour faire tomber Jérusalem en 605, l'été 605, hein. Il amène des Juifs en captivité, dont Daniel, commence 3 années de formation. Et ici, au deuxième chapitre, nous est dit la deuxième année du règne. Et là, on se dit, mince, ça colle pas, là, il y a un problème. Mais alors, on peut prendre en considération plusieurs choses. Comme les Juifs, quand ils parlent de jours, ils peuvent, par exemple, dire 3 jours, hein, en parlant de la résurrection, vous savez, ou de Jonas, hein, il est resté 3 jours, etc. Des jours, pour les Juifs, c'est un jour qui n'est pas terminé, enfin qui est entamé, c'est déjà un jour. Et un jour qui n'est pas complet, c'est quand même un jour. Vous voyez un peu? Donc si on considère que peut-être au niveau des années, eh bien c'est la même chose. Une année qui n'est pas complète, c'est quand même une année. Première chose, si on prend en compte aussi que l'année de la réelle accession au trône de Nebuchadnezzar, c'était en 604, parce qu'en 605, donc, il va à Jérusalem, il ramène les Juifs, il revient précipitamment à Babylone parce que son père est mourant. Donc, son père était encore sur le trône. Et son père va décéder, et puis on rentre dans cette année 604, où probablement c'est là où il est vraiment monté sur le trône, et puis on compte les années à partir de là. Et donc, ce serait pour cela que ce serait la deuxième année du roi de Nebuchadnezzar, du règne. Alors, le roi est frappé par des songes. Littéralement, c'est « il songea des songes ». C'est difficile de définir exactement ce qu'est un songe. Je suis allé regarder un petit peu hein, ce qu'en disait le monde, ce qui était dans la Bible, etc. Et qu'est-ce qu'un songe? J'ai vu plusieurs définitions. Alors, il semble... certains vont dire bon, c'est simplement un rêve. Mais bon, peut-être il y a des nuances. Hein. Il semble, d'abord, quand on regarde les versets de la Bible, qu'un songe, c'est parfois... Ça peut être d'une manière éveillée, mais, ou aussi dans un demi-sommeil, ou dans le sommeil, où il y a quelque chose qui se passe. Presque tous les songes bibliques se reçoivent la nuit. C'est souvent la nuit. Ici, c'était la nuit. Mais ce qui est sûr, c'est que dans tous les cas, c'est une révélation forte. La personne le sait, et elle sait que c'est pas simplement un rêve. Elle a reçu quelque chose qui était plus fort qu'un rêve. Preuve en est ici Nebuchadnezzar. Il réalise là de ce qu'il vient de vivre et il peut plus dormir. Il arrive plus à dormir. Donc ses songes provoquent des insomnies. Il a l'esprit agité. Il est angoissé. Sans compter que les songes depuis toujours, hein, c'est quelque chose qui était très important. On regardait même les rêves et les songes comme quelque chose de prophétique. Hein, ça annonçait quelque chose. Et ici, ça l'avait tellement marqué qu'il ne dort plus. Seulement, il a un trou, il a un vide, un peu comme nous quand on se réveille le matin. Vous savez, on sait qu'on a rêvé quelque chose. On voudrait pouvoir l'expliquer et puis on n'arrive pas à remettre les choses en place. C'est plus très clair. Eh bien, pour lui, ça se passe comme ça. Il se souvient, mais il peut pas reconstituer le puzzle. Voilà, il sait que c'était important et il veut comprendre, il veut savoir ce qu'il a vécu et il n'en dort plus. Alors, versets 2 à 4, on peut les relire. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs, les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent, se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit « J'ai eu un songe, mon esprit est agité, je voudrais connaître ce songe ». Les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne « Ô roi, vis éternellement, dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. » Alors on peut s'arrêter ici parce que c'est un quand même détail de l'histoire qui est important. La Bible est formellement contre les magiciens, les astrologues, et les enchanteurs et tous ceux finalement qui ont un commerce avec l'au-delà. Il y a un monde spirituel, ça c'est certain, et il peut aussi y avoir un contact avec ce monde spirituel. Alors, ces astrologues et magiciens, ou je pourrais dire d'une manière générale, les astrologues et magiciens prétendent parfois avoir un contact, recevoir des révélations par les astres, par les cartes, par les paumes de la main, par les chiffres, ou parfois, elles reçoivent vraiment quelque chose. Hein. Et là, on peut dire, eh bien, il y a de l'occultisme hein, tout de suite. Il y a quelque chose de mauvais. Hein, il y a voilà, quelque chose qui est fait avec des démons. Mais quand on lit la Bible, on voit Dieu interdit formellement cette pratique, que ce soit de le pratiquer ou que ce soit de consulter ceux qui pratiquent ces choses. Il est dit dans Deutéronome 18:10, on va pas le prendre, mais que ceux qui font cela sont en abomination à l'Éternel. Dieu les rejette, il les exècre, il les repousse. Et s'il est vrai que certains ont des contacts avec des démons pour recevoir des révélations, il y a aussi beaucoup qui vivent dans la manipulation et dans le mensonge. Et si on veut vivre aussi dans une mascarade, alors il faut aller consulter. Il faut vraiment aller consulter. Pour exemple, et c'est tout frais, il y a peut-être 15 jours, j'étais en voiture et je zappe les radios comme ça, et je tombe sur une radio ou une conversation, j'arrête et j'écoute. Et c'est une jeune fille qui est en train de consulter donc un astrologue, numérologue, sur une radio de jeunes bien connus que je ne citerai pas, je ne ferai pas de la pub. Et donc, elle est en train de consulter, s'inquiète de son avenir, elle voudrait savoir son avenir au travers des chiffres. Alors, cette jeune fille arrive avec une question. Vais-je retrouver quelqu'un parce que ça fait longtemps que je suis seule? Alors, eh bien, l'astrologue numérologue lui demande une série de 5 chiffres. 3, 5, 10, 13, 20. Alors, les chiffres disent que tu ne retrouveras pas quelqu'un dans ton cercle immédiat. Tu cherches actuellement par tes amis, dans tes activités quotidiennes, tu restes dans ton cercle, mais la personne ne s'y trouve pas, elle n'est pas là. Oui, c'est très clair, hein? Il ne faut pas chercher dans cette direction. Ah, oui, d'accord. Redonne-moi une série de 5 chiffres qui ne sont pas les premiers chiffres que tu m'as donnés. 8, 4, 1, 15, 18. Oui, oui, vraiment, je vois que tu dois aller chercher ailleurs. Est-ce que tu n'as pas eu un hobby, quelque chose? Tu fais quelque chose? Non. Je vois que tu dois faire un sport, avoir une activité nouvelle. C'est là que tu vas trouver quelqu'un. J'écoutais ça, je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Le ridicule et la manipulation de ces jeunes, hein, on les manipule complètement, hein, en disant qu'on reçoit des révélations de l'au-delà ou mystiques au travers des chiffres et qu'on va donner le futur. Et c'est dommage qu'il y a souvent une coupure entre les adolescents et les parents. Pourquoi ? C'est Kimberly qui m'a dit ça quand je lui partageais cela. C'est que parce que les ados, hein, ils sont grands, ils sont matures, hein, et les parents, ils sont ringards, donc on coupe le contact. Hein. Mais finalement, si cette jeune fille avait parlé avec sa maman, ben, le bon sens parental, sa maman lui aurait dit, ben, ma fille va faire quelque chose ailleurs. Hein. Elle lui aurait dit. Et les sages de Babylone dirent, ô roi, vis éternellement, dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. Hein? Mais d'abord, dis-le nous. Est-ce qu'on n'est pas de nouveau un peu, hein, vas-y, parle, dis-nous quelque chose et nous, on va réussir à te donner une réponse. Et c'est toujours comme ça. Il faut parler, il faut dire quelque chose et c'est là que la manipulation commence. On prend un peu d'information et puis après, avec de la perspicacité, on vient enrober son mensonge et on voit la réalité de leur pouvoir, hein, divinatoire. Alors Nebuchadnezzar, lui, ça marche pas comme ça, commence à s'irriter, hein. Il se dit, oula, le songe lui a échappé, il ne s'en souvient plus, mais il sait que c'est important. Alors il menace de les mettre en pièces s'il ne lui donne pas l'explication, le songe et l'explication. Il dit, vous voulez gagner du temps. Encore, vous voulez vous préparer à me dire des mensonges, des faussetés en attendant que les temps soient changés. Et c'est là que les sages vont avouer leur impuissance, hein. Ils sont devant un problème là, mais personne n'a jamais pu faire ça, on n'a jamais demandé ça à personne, il n'y a que les dieux. En ça, ils ont raison, si ce n'est que c'est, il n'y a que Dieu, l'Éternel, hein, qui est dans les cieux, qui peut faire cela. Verset 12, là-dessus, le roi se mit en colère, s'irrita violemment, il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. Alors, on ne va pas relire, mais c'est là que Daniel demande une audience au roi, Nebuchadnezzar, hein, il obtient un sursis dans l'exécution du décret. Et puis verset 17. Hein. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël, Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fasse pas périr Daniel, ses compagnons, avec le reste des sages de Babylone. Et là, on arrive au cœur de l'enseignement que j'aimerais vous partager ce matin. Daniel et ses compagnons sont devant une grande épreuve parce que leur vie ne tient plus qu'à un fil, là, la colère du roi. Et ils vont faire l'expérience de la prière. Alors, Daniel, Anania, Michaël et Azaria connaissent l'Éternel. Et non seulement ils le connaissent, mais ils ont une vraie relation avec lui. Ils prient, hein, ils l'invoquent et... Et Dieu répond à leur prière. Alors leur premier réflexe, c'est prier. Ils vont invoquer, probablement ensemble, peut-être aussi individuellement, ils vont dire, mais Seigneur, interviens, Seigneur, fais-nous grâce, Seigneur, agis, Seigneur, épargne la vie de notre vie et la vie des autres sages. Et la prière, c'est comme un outil invisible. Vous savez, vous avez un outil dans la main, mais vous ne le voyez pas. Un outil invisible. Imaginez que vous ayez une caisse à outils. J'ai ramené ma caisse à outils. Vous avez une caisse à outils. Elle est sale, hein. Si j'arrive à l'ouvrir. Mais elle est vide. Enfin, en apparence, elle est vide. Vous avez l'impression qu'elle est vide. Certains ont l'impression qu'elle est vide, mais elle n'est pas vide. Moi, je vois plein de trucs dedans. Il y a plein d'outils. Et c'est un peu ça, la prière, hein. Dedans, il y a la pince de la requête. C'est simple, hein. On prend sa pince, et puis, hop, on va chercher par la requête. Merci Seigneur. Demandez, et l'on vous donnera. Il y a aussi un marteau. Il y a le marteau de la supplication. Fort, puissant. Avec ça, on frappe au ciel, on supplie, on a vraiment, et on obtient. Dieu exauce, Dieu répond. Vous pouvez prendre aussi une tenaille. Il y a la tenaille de l'intercession. Avec ça, on va aller extirper, retirer les clous des difficultés qu'il peut y avoir dans nos vies. On retire. Hein. Et c'est réellement cela. On peut dire, le chrétien, il a une caisse à outils, mais c'est invisible. Invisible pour le commun des mortels. La prière, c'est invisible. Ce n'est pas quelque chose de palpable, hein, la prière. Ça paraît être que du vent à l'intérieur. Et la prière, ça paraît être que du vent. Hein. C'est pour ça que y a quand même... Hein, on rigole. Hein. La dernière fois, j'étais dehors, pas très loin de chez moi, je me promenais, je priais. Et il y a une voisine qui s'arrête, elle me dit « Tu promènes ton chien ?» Bon, elle rigolait, elle savait que j'avais pas de chien. Mais c'est vrai que ça fait un peu bizarre, quoi. Hein. Quelqu'un qui est tout seul, qui parle tout seul, là, on se dit « Mais qu'est-ce qu'il fait, lui hein ? Qu'est-ce qu'il fait ?» Et le monde regarde la prière comme étant quelque chose d'inutile. Ça sert à rien, c'est vide. C'est une boîte à outils qui est vide ou qui paraît vide. À quoi ça sert de passer 30 minutes ? 30 minutes, on peut faire plein de choses en 30 minutes. 30 minutes dans la prière. À quoi ça sert de demander à un Dieu qu'on ne peut pas voir de nos yeux, qu'on ne peut même pas entendre de nos oreilles ? À quoi ça sert de rester dans une pièce où physiquement, on est seul ? On est tout seul. Mais il n'y a pas que les incroyants qui pensent comme cela. Vous savez, certains chrétiens peuvent aussi douter de la force de la prière. Et quand on doute de la force de la prière, eh bien, on ne prie pas. On ne prie pas, ou on prie presque pas. C'est comme une roue de secours. Vous avez la roue de secours dans le coffre, vous vérifiez de temps en temps qu'elle est bien gonflée, qu'elle est là, on ne vous l'a pas prise, hein. Parfois elle est en dessous de la voiture, on peut vous la voler, encore que je n'ai pas vérifié depuis que j'ai ma voiture la roue de secours. Hein. Mais voilà, elle est là, on sait qu'elle est là, en cas de pépin, et puis vraiment, hein, si on crève, alors là on prend la roue de secours. Et c'est un peu ça, si on a des grandes difficultés, vite, la roue de secours. Mais sinon, voilà, elle est là. On sait qu'elle est là. On a sa caisse à outils. Tous les outils sont là. Mais on ne s'en sert pas. La prière, c'est quelque chose, c'est un thème, on peut dire, qui est récurrent dans toute la Bible. Tous les livres de la Bible parlent de la prière. Partout. De la Genèse à l'Apocalypse, on peut dire la prière est en honneur dans la Bible. Qu'est-ce qu'on trouve dans la Bible au sujet de la prière ? D'abord, on trouve une multitude de prières qui sont exaucées. C'est-à-dire des hommes qui ont prié et qui sont exaucés. On trouve aussi des promesses d'exaucement des prières. Dieu dit, voilà, si, alors, voilà, si, alors, vas-y, prie. On trouve des exhortations à la prière. Où le Seigneur nous dit, mais allez, je veux que tu pries. On trouve aussi la prière qui est commandée. Dieu dit, priez sans cesse. Il ordonne. On y trouve aussi la diversité des prières. Tout à l'heure, je vous parlais de plusieurs outils. Hein. Il y a toute une diversité, un panel de prières. On y trouve aussi les causes de l'échec dans la prière. Et par cela même, on y trouve des prières qui n'ont pas été exaucées. Pourquoi ? Ben, on peut trouver, c'est écrit. On y trouve aussi des exemples de prières d'hommes et de femmes. Alors là, la liste est trop longue pour la donner, hein. Plein d'hommes et de femmes qui ont prié. On y trouve des longues prières d'intercession. On pourrait penser par exemple à Abraham qui prie pour Sodome. On y trouve aussi des prières brèves qui montent comme Néhémie devant le roi, vite, qui prie « Ô Seigneur, donne-moi les mots pour parler au roi ». On y trouve des positions pour la prière, debout, à genoux, sur sa couche, le visage contre terre. On y trouve des prières secrètes faites dans les cœurs. Dieu nous les révèle comme celle d'Anne devant l'Éternel. On y trouve aussi des prières publiques comme celle de Salomon. Ça m'a toujours marqué, ça. Le peuple immense. Et Salomon se met à genoux et prie l'Éternel à haute voix devant tout le peuple. Quelle prière ! Quelle prière ! On y trouve aussi le temps de la prière. Tôt le matin, le midi, le soir, la nuit. On y trouve aussi des prières insensées. On y trouve aussi des prières importunes. Comme la femme qui va voir le juge inique. Et puis on y trouve surtout Jésus, fils de Dieu, priant son Père céleste. On peut dire exemple suprême de la légitimité, de l'importance et de l'efficacité de la prière. Jésus-Christ priant. Alors est-ce que vous êtes croyant ce matin ? À quoi ressemble votre vie de prière ? Est-ce qu'elle est moribonde ou est-ce qu'elle est efficace ? Il n'y a pas d'enfant de Dieu chez qui la prière ne devrait pas être essentielle, vitale, primordiale dans sa vie. Et puis on peut dire quotidienne aussi. Et c'est même un non-sens dire je suis croyant, je ne prie pas. C'est pas cohérent ça. Si je crois, je prie. Si je ne crois pas, je ne prie pas. Daniel et ses compagnons étaient des hommes de prière. Immédiatement, après l'annonce du décret disant l'extermination des sages de Babylone, Daniel et ses compagnons, tout de suite, prient l'Éternel. Et Dieu accorde la révélation du songe. Regardez lecture. On va lire Daniel 2, 19 à 30. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse, qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. » Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie, je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force et de ce que tu m'as fait connaître, ce que nous t'avons demandé, ce que tu nous as révélé le secret du roi, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. Après cela, Daniel se rendit auprès d'Arjoc, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi. « Ne fais pas périr les sages de Babylone. Conduis-moi devant le roi et je donnerai au roi l'explication. » Arjoc conduisit promptement Daniel devant le roi et lui parla ainsi. J'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belshazzar, es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication ? Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de révéler au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Sur ta couche, au roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Y a-t-il quelque chose d'étonnant ? Daniel prie, ses compagnons prient, et ils obtiennent ce qu'ils ont demandé dans leur prière. Le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et l'homme et la femme de prière ne sont pas surpris de l'exaucement. Ils savent. Ils ont reçu des exaucements, ils en reçoivent plein. Alors, il n'y a pas de surprise. C'est seulement l'incrédule qui dit « Non, c'est pas possible. Vraiment, j'ai été exaucé ?» Dieu ne demande pas, et on l'a vu, il demande plein de fois de prier. Il ne demande pas à ses enfants de prier dans le vide. « Allez-y, priez. Je veux que vous priez. » Et puis, jamais d'exaucement, non. Dieu veut qu'on prie pour être exaucé. Il est le Dieu qui exauce la prière. Et donc, ils ont prié devant ce problème. Ils ont reçu l'exaucement. C'est l'ordre logique des choses. Mais pourquoi fallait-il prier ? Pourquoi Dieu n'a pas tout de suite donné, puisque Daniel était un croyant, pourquoi il fallait demander ? Bien des fois, on aimerait que Dieu nous accorde selon nos besoins, selon nos souhaits, selon nos espérances, mais sans que nous lui demandions. On a vu avec les jeunes hier que en ce qui concerne les choses matérielles, le manger, le boire, Dieu dit, vous n'avez même pas besoin de les demander, je vous les donnerai. Si vous cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Occupez-vous de moi, et moi je vais m'occuper de ces choses qui sont vitales pour vous. Ça c'est vrai. Mais il y a plein d'autres choses où Dieu veut qu'on les demande. Il veut qu'on les demande. Mais alors pourquoi demander ? Dans le livre de Matthieu, il est écrit « Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Alors pourquoi demander, puisqu'il le sait ? Je ne vais rien lui apprendre. Mais en fait, on trouve la réponse et les réponses dans ce texte de ce matin. Daniel prie, il obtient l'exaucement. Et quel est le résultat ? Eh bien, regardez verset 19. « Daniel bénit le Dieu des cieux. » Et là, le jeune homme va faire une prière de reconnaissance à l'Éternel. Et on peut décortiquer cette prière de reconnaissance. Versets 20 à 21, sans les relire, on voit Daniel là qui va rendre la gloire à Dieu concernant la révélation qu'il vient de recevoir. Il sait, et il le dit clairement, la force, la sagesse, l'intelligence, la science, tout vient de lui. Donc, ce n'est pas sa perspicacité, ce n'est pas son raisonnement, ce n'est pas son intuition, ce n'est pas sa puissance qui lui ont permis de connaître le songe. Non, il l'a reçu en réponse à la prière, et Daniel le sait. Si ça lui avait été donné comme cela, alors ça n'aurait pas été pareil. Si il avait reçu sans prière, Daniel aurait pu dire « Oh là là, j'ai un don. Un don là... Après, vendre, hein, peut-être gagner de l'argent. Hein. J'ai un don, moi, je peux interpréter. J'ai, voilà, je sais pas, capacité. » Mais non, Daniel sait bien que ça vient de Dieu. C'est Dieu qui donne ces choses. Parce qu'il a demandé à Dieu, parce qu'il a reçu de Dieu, alors Daniel sait, c'est Dieu qui me l'a donné. Et on peut dire que c'est là une des raisons majeures de la prière. Dieu nous connaît et il sait que nous sommes des voleurs de gloire. Nous sommes des voleurs de gloire. On s'approprie facilement, hein, pas forcément manière, voilà, vous savez, très voyante, hein, mais voilà, on s'approprie facilement un peu de gloire, de mérite d'une chose. On se croit aussi souvent capable. Et la prière, eh ben, elle nous permet justement de ne pas nous enorgueillir. Elle permet de remettre les choses à leur place. Verset 22. Daniel dit encore clairement que la révélation de ce qui est profond, caché, la révélation du futur, la révélation des intentions, la révélation des cœurs, elle ne se trouve pas dans la numérologie, dans les cartes, dans les paumes de la main, dans le marc de café ou dans je ne sais pas quoi d'autre. Hein. Ça ne se trouve pas là, non. C'est Dieu seul qui connaît ce qui est caché dans les ténèbres, hein. Et c'est la lumière qui demeure avec lui. Et puis au verset 23, Daniel glorifie, loue son Dieu pour l'exaucement. Et c'est une prière de reconnaissance. Daniel dit, merci. Merci Seigneur. Et c'est ici une deuxième raison qui justifie pleinement la prière. C'est que l'exaucement produit une vraie reconnaissance. Quand on réussit quelque chose seul, et là il suffit de revenir en arrière avant votre conversion ou de regarder des personnes qui ne sont pas au Seigneur. Quand on réussit quelque chose seul, on a l'impression que c'est seul en tout cas, par sa propre intelligence, par son propre raisonnement, ses propres capacités, sa propre habileté, alors ben, on ne dit pas merci. C'est moi qui l'ai fait. Donc on ne dit pas merci. Alors que si on est conscient de sa faiblesse, conscient de notre besoin de Dieu, conscient que bah, tout vient de lui, tout vient de lui. Alors, eh bien, on lui demande, on l'obtient et on dit merci. Merci Seigneur, je te rends gloire. Il est dit, toute grâce excellente, tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Toute grâce excellente, tout don parfait. Ça veut dire tout ce qui est beau, tout ce qui est harmonieux, tout ce qui est réussi, tout ce qui est magnifique, ça vient de Dieu. Tout ce qui est raté, ça vient de nous. Tout ce qui est beau, ça vient de Dieu. C'est lui qui a donné, hein, et qui accorde, et qui fait grâce. Alors, eh bien, c'est légitime de dire merci. Et on croit que la prière nous aide justement dans ce sens. D'ailleurs, tout doucement, hein, dans la vie chrétienne, et chacun peut en faire l'expérience dans sa propre vie, Dieu nous amène, hein, il nous amène à reconnaître ces choses et à vouloir prier, à demander. S'il permet des échecs dans nos vies, est-ce que ce n'est pas souvent parce qu'on continue à agir seul? Mais petit à petit, par nos expériences ratées, par nos obstinations qui mènent à une impasse, hein, par nos échecs cuisants. Alors Dieu nous lance un message là. Viens, viens, je te tends la main. Moi je suis là pour t'aider. Je veux t'aider. Demandez et l'on vous donnera. Demandez et vous recevrez. Alors vous serez conscient que tout vient de moi. Alors vous serez reconnaissant. Vous me direz merci et j'en serai glorifié. Et Daniel était jeune. Il était tout jeune, mais dès sa jeunesse, il a appris à compter sur Dieu. Il a appris à le prier, il a appris à se reposer sur lui. C'est pourquoi il a reçu la révélation du songe. Alors, il va se retrouver en présence de Nebuchadnezzar, hein, et immédiatement devant le roi, qu'est-ce que fait Daniel? Il rend de nouveau gloire à Dieu. Verset 30. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi, afin que tu connaisses les pensées de ton cœur. C'est clair, hein? Daniel sait bien, hein? Il veut pas prendre de gloire, il veut pas prendre de mérite pour lui-même, il se sent pas supérieur, non, la révélation vient de Dieu et c'est Dieu qui a voulu la donner au roi. Alors on va lire maintenant la suite, hein? Quel était le songe et son explication, et vous avez vu la fresque qui vient appuyer et qui viendra appuyer tout notre livre de Daniel. Daniel 2, 31 à 45. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsque une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout. Il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Alors ce qui prédomine dans la fresque, c'est bien sûr cette statue immense que Nebuchadnezzar a vue. Donc, Daniel explique clairement, il dit, voilà, la tête d'or, c'est l'empire babylonien, c'est toi, Nebuchadnezzar. Et il faut savoir que donc son nom, c'était aussi Nabucodonosor II, et c'était le roi de Babylone qui a régné sur l'empire le plus vaste de Babylone. Donc il y a eu plusieurs tailles à l'empire, là c'était le plus vaste. Puis Daniel explique, après Nebuchadnezzar, il viendra un royaume qui sera moindre que le tien, donc c'est poitrine et bras d'argent. Et il dit, c'est l'empire, enfin il ne dit pas, mais on en déduit, et vous verrez que c'est de plus en plus clair, l'empire des Mèdes et des Persans. Et puis la statue a un ventre et des cuisses d'airain, c'est maintenant le royaume d'Alexandre le Grand. Sur la fresque, on voit qu'ils expliquent même après la division avec les fils d'Alexandre le Grand, mais ici ça n'apparaît pas dans ce songe. Et puis finalement, la statue est faite de jambes de fer, ses pieds se terminant en partie de fer, en partie d'argile, et là c'est l'Empire romain. C'est le quatrième royaume, fort comme du fer, un royaume qui brise tout, comme le fer qui met tout en pièces. Mais si au départ, eh bien c'est un royaume fort comme le fer, il se termine fragilisé dans les pieds. Alors on peut relire versets 41 à 43 parce que ça explique bien ce royaume. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort, en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile. par qui se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Alors, il était difficile de comprendre vraiment l'interprétation du songe il y a encore quelques décennies, mais aujourd'hui, on peut dire que c'est devant nos yeux. Ça y est, c'est clair. On peut se demander, mais où est l'Empire de Rome ? Et il y a une grande différence entre l'Empire romain et les empires précédents. Pourquoi ? Parce que les empires précédents, à chaque fois, ont été balayés par un royaume supérieur, enfin, en tout cas vainqueur, qui avait réussi à les exterminer, voilà, à les mettre de côté. Mais l'Empire de Rome, c'est pas pareil. C'est pas pareil et on voit que les historiens hein, ont plusieurs explications, ils sont pas tous d'accord. Hein. On parle de la chute de l'Empire, on parle du déclin de l'Empire. Pourquoi ? Parce que l'Empire romain s'est un peu désagrégé, disloqué. Voilà, alors certains disent par les barbares, voilà. Et puis il y a aussi cette division hein, qui a affaibli avec la séparation Occident, Orient, hein, donc vers 1000 après Jésus-Christ, hein, où là au niveau religieux, ben, il y avait une division, Rome n'avait pas la suprématie sur l'Empire. Mais chose curieuse, on voit aussi qu'il y a beaucoup d'hommes forts qui ont essayé de refaire, hein, de grappiller. Alors jamais ils n'ont réussi à s'étendre autant que l'Empire, mais Charlemagne petit à petit a essayé de grignoter, Napoléon a essayé de voilà, repartir, Hitler a essayé, peut-être lui il est allé un peu plus loin même, hein, puisqu'il est descendu jusqu'en Afrique du Nord. Mais aujourd'hui, ça y est, on a assisté à une reconstitution, c'est l'Europe. L'Europe est une reconstitution. Et l'Europe, ben, l'Europe des 12, et puis après l'Europe des 27, et on grappille, et on grappille comme ça, pays après pays, ça s'étend un peu comme une pieuvre. Et l'Europe, elle est forte comme du fer, mais elle est fragile aussi comme de l'argile. C'est les deux à la fois, c'est à la fois la force et la fragilité. Comme le dit Daniel, l'Europe, c'est quelque chose qui est fait par des alliances humaines. Voilà, c'est pas qu'on a dominé les autres pays, hein, mais c'est non, on est d'accord, on va faire quelque chose ensemble. Donc on s'unit par des alliances humaines. Et comme le fer ne se mélange pas avec l'argile, eh ben c'est difficile de marier, d'unir, de lier les pays européens. Hein. Et on le voit là, c'est flagrant, c'est devant nos yeux. J'ai tapé désunion de l'Europe, un peu là, sur Internet. Hein. Et on voit qu'il y a plein de désunions. Hein. Ils sont jamais d'accord. Hein. Concernant la taxe bancaire, désunion. Concernant l'immigration, désaccord des uns avec les autres. Concernant la Libye, tous ne sont pas d'accord. Concernant le clonage thérapeutique, pas d'accord. Et on peut citer comme ça encore des sujets. L'Angleterre, j'y suis, mais je n'y suis pas. Hein. Oui et non, hein, comme ça. Alors, ils sont liés ensemble, mais c'est difficile. C'est difficile, ils sont liés sans l'être vraiment. Ils ne se mêlent pas ensemble. Et donc, on voit que longtemps à l'avance, Daniel, 6e siècle avant Jésus-Christ, Dieu donnait, pas à la manière des astrologues, donnait une vision du futur. Et voilà. Voilà comment ça va se passer. Voilà comment ils vont tomber, ces royaumes. Et voilà ce royaume qui va arriver. Donc, c'était l'Europe qui était vue dans le futur. Mais au verset 35, la statue prend un coup. Et là, on voit une petite pierre hein, et une grande montagne. Daniel 2, 34-35. Regardez verset 35. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta, nulle trace n'en fut retrouvée, mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Et la pierre, bien sûr, bien c'est Jésus-Christ. Il est la pierre angulaire, il est le rocher des siècles. Et ça représente ici la fin du temps des nations. On peut dire, comme ce verset des Actes, Dieu a laissé les hommes le chercher en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun d'eux. Et voilà. Après, il a donné une manifestation de ce qu'il était au travers de Jésus-Christ pour dire, eh bien maintenant, vous voulez me connaître par Jésus-Christ, vous pouvez me connaître. Mais ce temps des nations dans lequel nous sommes, ben, s'arrête. Un jour, il va s'arrêter. Et Dieu va frapper tous ces royaumes, voilà, tous ces gouvernements humains. Il va balayer tout ça et ça va être remplacé par un seul royaume, le royaume de Jésus-Christ. C'est cette montagne immense. Hein. Et là, eh bien, ça nous parle du millénium. Un royaume qui ne sera jamais détruit, puisqu'après, eh bien, ça y est, le règne de Dieu s'étend pour toujours, hein, et qui ne passera pas sous la domination d'un autre peuple. Hein. Donc, il va subsister éternellement. Nébuchadnetsar a donc eu un songe lui révélant le futur, hein, son futur, mais aussi le futur des autres royaumes de notre monde. Alors, on va voir dans la suite de Daniel, dans les semaines à venir, que d'autres songes vont venir expliquer, hein, d'autres visions vont venir donner des détails, en sorte que c'est clair, quoi, c'est évident, hein, c'est historique. Mais pour conclure, on peut lire le dernier passage, versets 46 à 49. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face, se prosterna devant Daniel et il ordonna qu'on lui offre des sacrifices et des parfums. Le roi adressera la parole à Daniel et dit « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Et il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ce secret. » Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême sur tous les sages de Babylone. Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego. Et Daniel était à la cour du roi. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, tombe à genoux. Il se prosterne devant le jeune juif Daniel. Il lui offre des sacrifices, des parfums. Soudain, c'est le monde à l'envers. C'est carrément le monde à l'envers. Le roi souverain devant le jeune homme. Pourquoi il reçoit tant d'honneur d'un seul coup? Simplement un homme de foi, un homme droit, un homme aimant Dieu, un homme de prière, un homme qui ne veut pas sa propre gloire, mais la gloire de Dieu. Plus encore, l'Éternel reconnaît l'Éternel, là, même si on voit que on ne peut pas encore appeler ça une conversion. Hein. Plus tard, peut-être, il y a eu une vraie conversion. Mais là ce n'était pas le cas, hein, pas encore. Mais c'est une première lumière, première reconnaissance. Oh, il y a un Dieu, vraiment, qui est au-dessus des autres. Lui, il règne. C'est l'Éternel. Je le reconnais. C'est le Dieu des Juifs. Et c'est ainsi que Daniel va avoir une place élevée à la cour de Babylone. Tout de suite, il va partager son pouvoir avec les jeunes juifs, donc Shadrach, Meshach et Abednego, en donnant cette intendance de la province de Babylone. Et donc, pour conclure, ce matin, Daniel apparaît comme un homme de prière, un homme qui est proche de Dieu, un homme qui est petit à ses propres yeux, un homme qui, du fait de sa vie de prière, savait pertinemment qui il était et ce qu'il savait. Hein. Il savait que quand il avait reçu quelque chose de Dieu, alors, eh bien, voilà, il pouvait être reconnaissant parce que tout venait de l'Éternel. Et il va rester cet homme identique tout au long du livre, même si maintenant il était à la cour du roi de Babylone, et littéralement, il était à la porte du roi de Babylone. Quand quelqu'un était à la porte de la ville, hein, c'était une position d'honneur. Lui, il est à la porte du roi. Ça veut dire, ben, maintenant, il a une position d'autorité à la cour de Babylone. Retenons cet exemple de Daniel, homme de prière. On va s'incliner dans la prière.